La ferme des animaux de George Orwell. Première partie.
Le propriétaire de la ferme du manoir, Mr. Jones, avait poussé le verrou des poulaillers, mais il était bien trop saoul pour se rappeler de rabattre les trappes. S'éclairant avec son lanterne, c'est en titubant qu'il traversa la cour. Il entreprit de se déchausser, tira au tonneau un dernier verre de bière et se hissa dans le lit où était Mrs. Jones déjà en train de ronfler. Dès que fut éteinte la lumière de la chambre, ce fut à travers les bâtiments de la ferme tout un remue-ménage. Dans la journée, la rumeur s'était répandue que Sage l'Ancien avait été visité par un rêve étrange dont il désirait entretenir les autres animaux. Il avait été convenu qu'ils se retrouveraient tous dans la grange dès que Mr. Jones se serait éclipsé. Sage l'Ancien, un cochon de 12 ans d'âge, était si profondément vénéré que chacun était prêt à prendre sur son sommeil pour savoir ce qu'il avait à dire. Sage l'Ancien avait déjà pris place à l'une des extrémités de la grange sur une sorte d'estrade. Bientôt, les autres animaux se présentèrent et ils se mirent à l'aise, chacun suivant les lois de son espèce. Ce furent d'abord le chien Filou et les deux chiennes, Fleur et Constance, et ensuite les cochons qui se vautrèrent sur la paille. Les poules allèrent se percher sur les appuis de fenêtres et les pigeons sur les chevrons du toit. Vaches et moutons se placèrent derrière les cochons et là se prirent à ruminer. Puis deux chevaux de trait, Malabar et Douce, firent leur entrée à petits pas précautionneux. Douce était une superbe matrone entre deux âges qui, depuis la naissance de son 4e poulain, n'avait plus retrouvé la silhouette de son jeune temps. Malabar était une énorme bête, forte comme n'importe quel 2 chevaux. Une longue raie blanche est tombée jusqu'au naseau, ce qui lui donnait un air un peu bêta. Chacun le respectait néanmoins, parce qu'on pouvait compter sur lui et qu'il abattait une besogne fantastique. Vinrent encore Aimée, la chèvre blanche, et Benjamin, l'âne, le plus vieil animal de la ferme et le plus acariâtre. Il était le seul à ne jamais rire. Quand on lui demandait pourquoi, il disait qu'il n'y a pas de quoi rire. À la dernière minute, une autre jument, Luby, la jolie follette blanche que Mr. Jones attelait à son cabriolet, se glissa à l'intérieur de la grange en mâchonnant un sucre. Elle se plaça sur le devant et fit des mines avec sa crinière blanche enrubannée de rouge. Enfin, ce fut la chatte. À sa façon habituelle, elle jeta sur l'assemblée un regard circulaire, guignant la bonne place chaude, et se coula entre Douce et Malabar. Camarade, commença Sage l'Ancien, je ne compte pas passer encore de longs mois parmi vous. Mais avant de mourir, je voudrais vous faire profiter de la sagesse qu'il m'a été donné d'acquérir. Quelle est donc, camarade, la nature de notre existence? Regardons les choses en face. Nous avons une vie de labeur, une vie de misère, une vie trop brève. Une fois au monde, il nous est tout juste donné de quoi survivre, et ceux d'entre nous qui ont la force voulue sont astreints au travail, jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Passé notre première année sur cette terre, il n'y a pas un seul animal qui entrevoit ce que signifient des mots comme loisir ou bonheur. Telle est la simple vérité. Et doit-il en être tout uniment ainsi par un décret de la nature? Notre pays est-il donc si pauvre qu'il ne puisse procurer à ceux qui l'habitent une vie digne et décente? Non, camarade, non, 1000 fois non. Fertile est le sol de l'Angleterre et propice son climat. Cette ferme à elle seule pourra pourvoir aux besoins d'une 12aine de chevaux, 20aine de vaches, 100aines de moutons. Et puisque telle est la réalité, pourquoi en sommes-nous toujours à végéter dans un état pitoyable? Parce que tout le produit de notre travail est volé par les humains. Camarades, tout tient en un mot, l'homme. Car l'homme est notre seul véritable ennemi. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œufs, il est trop débile pour pousser la charrue. Pourtant le voici, le suivrai de tous les animaux. Vous, les vaches, là devant moi, combien de centaines d'hectolitres de lait n'avez-vous pas produit l'année dernière? Et qu'est-il advenu de ce lait qui vous aurait permis d'élever vos petits? De chaque goutte, l'ennemi s'est délecté et rassasié. Et vous, les poules, Combien d'œufs n'avez-vous pas pondu cette année-ci? Et combien de ces œufs avez-vous prouvé? Tous les autres ont été vendus au marché pour enrichir Claude et ses gens. Et toi, douce, où sont les 4 poulains que tu as portés? Qui aurait été la consolation de tes vieux jours? Chacun d'eux fut vendu à l'âge d'un an, et plus jamais tu ne les reverras. Et même nos vies misérables s'éteignent avant le terme. Toi, Malabar, le jour où tes muscles fameux n'auront plus leur force ni leur emploi, Jones te vendra les canceurs, et l'écarisseur te tranchera la gorge. Il fera bouillir tes restes à petit feu, et il en nourrira la meute de ses chiens. Tous les maux de notre vie sont dus à l'homme, notre tyran. C'est là mon message, camarade. Soulevons-nous, débarrassons-nous de l'homme, et l'autre sera le produit de notre travail. Aussi vrai que sous moi je sens de la paille, tôt ou tard justice sera faite. Quand aura lieu le soulèvement, dans une semaine ou dans un siècle, je l'ignore. Mais votre résolution ne doit jamais se relâcher. Nul ne vous fera prendre des vestis pour des lanternes. Ne prêtez pas l'oreille à ceux selon qui l'homme et les animaux ont des intérêts communs. Ce ne sont que des mensonges. L'homme ne connaît pas d'autres intérêts que les siens. Que donc prévale entre les animaux l'unité parfaite et la camaraderie sans faille. Tout deux pattes est un ennemi. Tout quatre pattes, tout volatile, est un ami. À ce moment-là, ce fut un vacarme terrifiant. Quand il se fut apaisé, sage l'ancien reprit. J'ai peu à ajouter. Sinon que la lutte elle-même ne doit pas nous changer à la ressemblance de l'ennemi. Même après l'avoir vaincu, gardons-nous de ses vices. Jamais animal n'habitera une maison, ne dormira dans un lit, ne portera de vêtements, ne touchera à l'alcool ou au tabac, ni à l'argent, ni ne fera négoce. Mais surtout, jamais un animal n'en tyrannisera un autre. Quand tous sont frères, peu importe le fort ou le faible, l'esprit profond ou simplet, tous les animaux sont égaux. Maintenant, camarades, je vais vous dire mon rêve de la nuit dernière. La terre m'est apparue telle qu'une fois délivrée de l'homme, et cela m'a fait me ressouvenir d'une chose enfouie au fin fond de la mémoire. J'étais encore cochon de lait. Ma mère et les autres truies chantaient souvent une chanson, dont elles ne savaient que l'air et les 3 premiers mots. Or, dans mon rêve, cette chanson m'est revenue, avec toutes les paroles. Sage l'ancien se racla la gorge et se mit à chanter. Bêtes d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille et l'espérance, un âge d'or vous est promis. L'homme tyran exproprié, nos champs connaîtront l'abondance. De nous seuls, ils seront foulés. Le jour vient de la délivrance. Plus d'anneaux qui pendent au nez, plus de harnais sur nos échines. Les fouets cruels sont retombés. Éperons et morts sont en ruine. Oh, comme brillent tous nos champs, comme est plus pure l'eau d'ici. Plus doux aussi souffle le vent du jour que l'on est affranchi. Sage l'ancien n'avait pas entonné le dernier couplet que tous s'étaient mis à l'unisson. Même les plus bouchés des animaux avaient attrapé l'air et jusqu'à des bribes de paroles. Et après quelques répétitions improvisées, la sermentière retentit d'accents martiaux. Doublement des vaches, aboiement des chiens, bêlement des moutons, hennissement des chevaux, quoi des canards. Bêtes d'Angleterre, animaux de tous les pays, c'est ce qu'ils chantaient en chœur à leurs différentes façons. Et d'un tel enthousiasme que si rien n'était venu arrêter leur élan, ils se seraient exercés toute la nuit. Mr. Jones, réveillé par le tapage, sauta en bas du lit, persuadé qu'un renard avait fait irruption dans la cour. Il se saisit de la carabine et dans les ténèbres déchargea une solide volée de plomb. Celle-ci se logea dans le mur de la grange de sorte que la réunion des animaux prit fin dans la confusion. Chacun regagna son habitat en grande hâte. L'instant d'après, toutes les créatures de la ferme sombraient dans le sommeil. Trois nuits plus tard, sage l'ancien s'éteignait paisiblement dans son sommeil. Son corps fut enterré en bas du verger. On était au début mars. Pendant les 3 mois qui suivirent, ce fut une intense activité clandestine. Le discours de sage l'ancien avait éveillé chez les esprits les plus ouverts des perspectives d'une nouveauté bouleversante. Les animaux ne savaient pas quand aurait lieu le soulèvement annoncé par le prophète et n'avaient pas lieu de croire que ce serait de leur vivant, mais ils voyaient bien leur devoir d'en jeter les bases. La double tâche d'instruire et d'organiser échut bien normalement aux cochons qu'en général on regardait comme l'espèce la plus intelligente. Et entre les cochons, les plus éminents étaient Boule de Neige et Napoléon, deux jeunes verrats que Mr. Jones élevait pour en tirer bon prix. Napoléon était un grand et imposant Berkshire, le seul de la ferme. Avare de parole, il avait la réputation de savoir ce qu'il voulait. Boule de Neige, plus vif, d'esprit plus délié et plus inventif, passait pour avoir moins de caractère. Le plus connu d'entre eux, Brille Babil, un goret bien en chair et de petite taille, forçait l'attention par sa voix perçante et son œil malin. C'était un causeur éblouissant qui, dans les débats épineux, sautillait sur place et battait l'air de la queue. On s'accordait à dire que Brille Babil pourrait bien vous faire prendre des vessies pour des lanternes. À partir des enseignements de sages anciens, Napoléon, Boule de Neige et Brille Babil avaient élaboré un système philosophique sans faille qu'ils appelaient l'animalisme. Dans les débuts, ils se heurtèrent à une apathie et à une bêtise des plus crasses. Les questions les plus stupides étaient encore celles de Luby, la jument blanche. Après le soulèvement, est-ce qu'il y aura toujours du sucre ? Non, lui répondit Boule de Neige d'un ton sans réplique. Dans cette ferme, nous n'avons pas les moyens de fabriquer du sucre. De toute façon, le sucre est du superflu. Tu auras tout le foin et toute l'avoine que tu voudras. Est-ce que j'aurai la permission de porter des rubans dans ma crinière ? Camarade, ces rubans qui te tiennent tant à cœur sont l'emblème de ton esclavage. Tu ne peux pas te mettre en tête que la liberté a plus de prix que ses colis fichés ? Luby acquiesça sans paraître bien convaincu. Les cochons avaient pour plus fidèles disciples les deux chevaux de trait, Malabar et Douce. Tous deux éprouvaient grande difficulté à se faire une opinion par eux-mêmes, mais une fois les cochons devenus leur maître à penser, ils assimilèrent tout l'enseignement et le transmirent aux autres animaux avec des arguments d'une honnête simplicité. Ils ne manquaient pas une seule fois des réunions clandestines de la grange et entraînaient les autres à chanter « Bête d'Angleterre ». Or, il advint que le soulèvement s'accomplit bien plus tôt et bien plus facilement que personne ne s'y attendait. Au long des années, Mr. Jones s'était montré à la hauteur de sa tâche, mais depuis quelque temps, il était entré dans une période funeste. Il avait perdu cœur à l'ouvrage après un procès où il avait laissé des plumes et s'était mis à boire plus que de raison. Ses ouvriers agricoles étaient des filous et des fainéants, les champs étaient envahis par les mauvaises herbes, les haies restaient à l'abandon, les toits des bâtiments menaçaient ruine, les animaux eux-mêmes n'avaient plus leur suffisance de nourriture. Vint le mois de juin, et bientôt la fenaison. La veille de la Saint-Jean, Mr. Jones se rendit à Willingdon. Là, il se foula si bien à la taverne du Lion Rouge qu'il ne rentra chez lui que le lendemain matin, en fin de matinée. Ses ouvriers avaient trait les vaches de bonne heure, puis s'en étaient allés tirer les lapins, sans souci de donner aux animaux leur nourriture. À son retour, Mr. Jones s'affala sur le canapé de la salle à manger et s'endormit. Quand vint le soir, les bêtes n'avaient toujours rien eu à manger. À la fin, elles ne purent retenir plus longtemps. Alors l'une des vaches enfonça ses cornes dans la porte de la resserre et bientôt, toutes les bêtes se mirent à fourrager dans les huches et les boîtes à ordures. À ce moment, Jones se réveilla. L'instant d'après, il se précipita dans la remise avec ses 4 ouvriers, chacun le fouet à la main. Et tout de suite, une volée de coups s'abattit de tous côtés. C'était tout ce que l'on pouvait souffrir des affamés. D'un commun accord et sans s'être concertés, les meurlaçants se jetèrent sur leurs bourreaux. Et voici 5 hommes en butte aux roulades et coups de corne changés en souffre-douleur. De leur vie, leur maître n'avait vu des animaux se conduire pareillement. Ceux qui avaient coutume de les maltraiter, de les rosser à qui mieux mieux, voilà qu'ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes perdirent la tête et bientôt, renonçant au combat, prirent leurs jambes à leur cou. En pleine déroute, ils filèrent par le chemin de terre qui mène à la route, des animaux triomphant à leur pousse.
Ainsi, et c'est avant qu'ils soient rendus compte, le soulèvement s'était accompli. Jones expulsé, la ferme du manoir était à eux. Leur première réaction fut de se lancer au galop tout autour de la propriété, comme pour s'assurer qu'aucun humain ne s'y cache plus. Ensuite, le cortège repartit grand train vers les dépendances de la ferme pour effacer les derniers vestiges d'un régime haï. Les animaux enfoncèrent la porte de la sellerie, puis précipitèrent dans le puits morse, Nazière, Hélès et ses couteaux meurtriers, dont Jones et ses acolytes s'étaient servis pour chasser cochons et agnelets. Bientôt, les animaux ont détruit tout ce qui pouvait leur rappeler Mr. Jones, et ils chantèrent Bête d'Angleterre, du commencement à la fin, 7 fois de suite. Après quoi, s'étant bien installés pour la nuit, ils dormirent comme jamais encore. Ils se réveillèrent à l'aube. Et se ressouvenant soudain de leur gloire nouvelle, c'est au galop que tous filèrent vers le monticule, d'où l'on a vu sur presque toute la ferme. Une fois au sommet, ils découvrirent leur domaine dans la claire lumière du matin, et, muets d'admiration, embrassèrent tout du regard, les labours, les foins, le verger, l'étang, le boqueteau. Ils pouvaient à peine croire que tout cela était leur propriété. À cette pensée, ils exultaient, ils bondissaient et caracolaient. Ils se roulaient dans la rosée et broutaient l'herbe douce de l'été. Ils regagnèrent ensuite les bâtiments de la ferme et devant le seuil de la maison firent halte en silence. Oh, certes, elle leur appartenait, mais intimidés, ils avaient peur d'y pénétrer. Un instant plus tard, Napoléon et Boule de Neige forcèrent cependant la porte de l'épaule et les animaux les suivirent, un par un, à pas précautionneux, par peur de déranger. Et maintenant, ils vont de pièce en pièce, sur la pointe des pieds. C'est à peine s'ils osent chuchoter, et ils sont pris de stupeur devant un luxe incroyable. Lits matelassés de plumes, miroirs, divans en crin de cheval, moquettes de Bruxelles, estampes de la reine Victoria au-dessus de la cheminée. Quand ils redescendirent l'escalier, Luby n'était plus là. Revenant sur leurs pas, les autres s'aperçurent qu'elle était restée dans la grande chambre à coucher. Elle s'était emparée d'un morceau de ruban bleu sur la coiffeuse de Mrs. Jones et s'admirait dans la glace avec des poses ridicules. Les autres la rabrouèrent vertement et se retirèrent. Ils décrochèrent des jambons qui pendaient dans la cuisine afin de les enterrer. D'un bon coup de sabot, Malabar creva le baril de bière de l'Ossis. Autrement, tout fut laissé indemne. Une motion fut même votée à l'unanimité, selon laquelle l'habitation serait transformé en musée. Les animaux tombèrent d'accord que jamais aucun d'eux ne s'y installerait. Ils prirent le petit déjeuner, puis Boule de Neige et Napoléon les réunirent en séance plénière. Les cochons révélèrent qu'ils avaient appris à lire et à écrire au cours des 3 derniers mois, dans un vieil abécédaire des enfants de Jones. Ensuite, Napoléon demanda qu'on lui amène des pots de peinture blanche et noire, et il entraîna les animaux jusqu'à la clôture aux 5 barreaux. Là, Boule de Neige fixa un pinceau à sa patte et passa sur le barreau supérieur une couche de peinture qui recouvrit les mots « ferme du manoir ». Puis à la place, il calligraphia « ferme des animaux ». Tel serait dorénavant le nom de l'exploitation agricole. Cette opération terminée, tout le monde regagna les dépendances. Napoléon et Boule de Neige firent venir une échelle qu'on dressa contre le mur de la grange. Ils expliquèrent qu'au terme de leurs 3 mois d'études, les cochons étaient parvenus à réduire les principes de l'animalisme à 7 commandements. Le moment était venu de les inscrire sur le mur. Boule de Neige escalada les barreaux et se mit au travail. Et c'est de la sorte que furent promulgués les 7 commandements en gros caractères blancs sur le mur goudronné. On pouvait les lire à 30 mètres. 1. Tout deux pattes est un ennemi. 2. Tout 4 pattes, ou tout volatile, un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. Boule de Neige fit lecture des sept commandements à l'usage des animaux qui n'avaient pas appris à lire. Tous donnèrent leur assentiment d'un signe de tête, et les esprits les plus éveillés commencèrent aussitôt à les apprendre par cœur. « Et maintenant, camarades, au foin !» s'écria Boule de Neige. « Il y va de notre honneur d'engranger la récolte plus vite que ne le ferait Jones et ses acolytes. » Mais à cet instant, les trois vaches, qui avaient paru mal à l'aise depuis un certain temps, gémirent de façon lamentable. Il y avait 24 heures qu'elles n'avaient pas été traites. Leur pie était sur le point d'éclater. Après brève réflexion, les cochons firent venir des seaux et se mirent à la besogne. Bientôt furent remplis 5 seaux de lait crémeux et mousse que maints animaux lorgnaient avec l'intérêt le plus vif. « Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce lait ?» demanda l'un d'eux. Napoléon se planta devant les seaux et s'écria « Ne vous en faites pas pour le lait. On va s'en occuper. La récolte, c'est ce qui compte. En avant, camarades. Le foin vous attend. » Mais quand au soir ils s'en retournèrent, ils s'aperçurent que le lait avait disparu. Comme ils crûmèrent et prirent de la peine pour rentrer le foin. À certains moments, la besogne était tout à fait pénible. Néanmoins, les cochons étaient si malins qu'ils trouvèrent le moyen de tourner chaque difficulté. Avec leurs connaissances supérieures, il était naturel qu'ils prennent le commandement. Quant aux chevaux, ils connaissaient chaque pouce du terrain et s'y entendaient à faucher et à racler mieux que Jones et ses gens leur vigurants. Et chaque animal, jusqu'au plus modeste, besognait à faner et à ramasser le foin, même les canards et les poules, sans relâche, allaient et venaient sous le soleil, portant dans leur bec des filaments minuscules. Et ainsi, la fenaison fut achevée 2 jours plus tôt qu'au temps de Jones, qui plus est, ce fut la plus belle récolte de foin que la ferme ait jamais connue. Tout l'été, le travail progressa avec une régularité d'horloge. Malabar faisait l'admiration de tous. Déjà connu à l'époque de Jones pour son cœur à l'ouvrage, pour l'or, il besognait comme proie. Tout le travail de la ferme semblait reposer sur sa puissante encolure. Du matin à la tombée de la nuit, il poussait, il tirait, et était toujours présent au plus dur du travail. Il avait passé l'accord avec l'un des jeunes coqs pour qu'on le réveille une demi-heure avant tous les autres. À tout problème et à tout revers, il posait sa conviction. « Je vais travailler plus dur. » Ce fut là sa devise. Les animaux étaient heureux d'un bonheur qui passait leurs espérances. Tout aliment leur était plus délectable d'être le fruit de leur effort. Chacun œuvrait suivant ses capacités et personne ne tirait au flanc. Enfin, presque personne. Lubie, avouons-le, n'était pas bien matineuse et se montrait encline à quitter le travail de bonne heure sous prétexte qu'un caillou lui agaçait le sabot. La conduite de la chatte était un peu singulière aussi. Elle était introuvable quand l'ouvrage requérait sa présence. Elle disparaissait des heures d'affilée pour reparaître au repas, après le travail fait comme si de rien n'était. Quant à Benjamin, le vieil âne, depuis la Révolution, il était demeuré le même. Il s'acquittait de sa besogne de la même manière, lente et têtue, sans jamais renâcler, mais sans elle inutile non plus. Le dimanche, jour férié, on prenait le petit déjeuner, 1 heure plus tard que d'habitude, puis c'était une cérémonie renouvelée sans faute chaque semaine. Boule de Neige s'était procuré à la céderie un vieux tapis de table de couleur verte, sur lequel il avait peint en blanc une corne et un sabot. Le vert du drapeau, expliquait-il, représente les verts pâturages d'Angleterre. La corne de sabot, la future république, laquelle serait proclamée au renversement définitif de la race humaine. Après le salut au drapeau, les animaux gagnaient ensemble la grange, là se tenait une assemblée qui était l'assemblée générale. On y établissait le plan de travail de la semaine, on y débattait et adoptait différentes résolutions, toujours proposées par les cochons. L'assemblée prenait fin aux accents de bêtes d'Angleterre et l'après-midi était consacrée aux loisirs. Les cochons avaient fait de la céderie leur quartier général. Là, le soir, ils étudiaient les arts et métiers à l'aide de livres ramenés de la ferme. Boule de Neige se préoccupait aussi de répartir les animaux en commissions. Pour les poules, la commission des pontes. Pour les vaches, la ligue des queues de vaches propres. Pour les réfractaires, la commission de rééducation des camarades vivant en liberté dans la nature. et pour les moutons, le mouvement de la laine immaculée. Dans l'ensemble, ces projets de prophylaxie sociale connurent l'échec. Les cours de lecture et d'écriture eurent en revanche un vif succès. À l'automne, il n'y avait plus d'illettrés, autant dire. Les cochons savaient déjà lire et écrire à la perfection. Les chiens apprirent à lire à peu près couramment, mais ils ne s'intéressaient qu'aux sept commandements. Aimé, la chèvre s'en tirait mieux qu'eux. Le soir, il lui arrivait de faire aux autres la lecture des journaux découverts aux ordures. Benjamin, l'âne, pouvait lire aussi bien que n'importe quel cochon, mais jamais il n'exerçait ses dons. Que je sache, disait-il, il n'y a rien qui vaille la peine d'être lu. Douce apprit toutes ses lettres, mais la science des mots lui échappait. Malabar n'allait pas au-delà de la lettre D. De son grand sabot, il traçait dans la poussière les lettres A, B, C, D, puis il les fixait les yeux. Les oreilles rabattues et de temps à autre repoussant la mèche qui lui barrait le front, il faisait grand effort pour se rappeler quelle lettre venait après, mais sans jamais y parvenir. À différentes reprises, il retint E, F, G, H, mais du moment qu'il savait ces lettres-là, il avait oublié les précédentes. Lubie refusa d'apprendre l'alphabet, hormis les cinq lettres de son nom. Elle les traçait fort adroitement, puis les agrémentait d'une fleur ou deux, et avec admiration, en faisait le tour. Aucun des autres animaux de la ferme ne put aller au-delà de la lettre A. On s'aperçut aussi que les plus bornés, tels que moutons, poules et canards, étaient incapables d'apprendre par cœur les sept commandements. Après mûre réflexion, Boule de Neige signifia que les sept commandements pouvaient, après tout, se ramener à une maxime unique. Quatre pattes, oui, deux pattes, non. Que tous les moindres animaux de la ferme se mirent à apprendre par cœur. Une fois qu'ils l'assurent sans se tromper, les moutons s'en éprirent et c'est souvent que, couchés dans les champs, ils bêlaient en cœur. Quatre pattes, oui, deux pattes, non. 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 Et ainsi, des heures durant sans se lasser jamais. Napoléon ne portait aucun intérêt aux commissions de Boule de Neige. Selon lui, l'éducation des jeunes était plus importante que tout ce qu'on pouvait faire pour les animaux déjà d'âge mûr. Or, les deux chiennes, Constance et Fleur, mirent bas peu après la fenaison, donnant naissance à 9 chiots vigoureux. Dès après le sevrage, Napoléon enleva les chiots à leur mère, disant qu'il pourvoirait personnellement à leur éducation. Et il les remisa dans un grenier et les y séquestra si bien que tous les autres animaux oublièrent jusqu'à leur existence. Vint le temps où les premières pommes commençaient à mûrir et bientôt elles jonchaient l'herbe du verger. Les animaux s'attendaient au partage équitable qui leur semblait aller de soi. Un jour, néanmoins, ordre fut donné de ramasser les pommes pour les apporter à la sellerie, au seul bénéfice des cochons. On entendit bien murmurer certains animaux, mais ce fut en vain. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt élucidé aussi. C'est que chaque jour, le lait était mélangé à la pâtée des cochons. Brille d'habile fut chargé des explications nécessaires. Vous n'allez tout de même pas croire, camarades, que nous, les cochons, agissons par égoïsme, que nous nous attribuons des privilèges. En fait, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes. C'est mon propre cas. Le lait et les pommes, ainsi, camarades, que la science le démontre, renferment des substances indispensables au régime alimentaire du cochon. Nous sommes, nous autres, des travailleurs intellectuels. La direction et l'organisation de cette ferme reposent entièrement sur nous. De jour et de nuit, nous veillons à votre bien. Et c'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qui adviendrait si nous, les cochons, devions faillir à notre devoir? L'autre reviendrait? Oui, Jones! Assurément, camarade, assurément, il n'y en a pas un seul parmi vous qui désire le retour de Jones. Au début d'octobre, une fois le blé coupé, mis en meule et en partie battu, Un vol de pigeons vint tourbillonner dans les airs, puis dans la plus grande agitation, se posa dans la cour de la ferme des animaux. Jones et tous ses ouvriers, accompagnés d'une demi-douzaine d'hommes de main de Foxrue et de Pinchfield, les deux fermes voisines, avaient franchi la clôture au fond de barreaux et gagné la maison par le chemin de terre. Tous étaient armés de gourdins. Jones allait en tête, un fusil à la main. Il entendait reprendre possession des lieux. On s'y était attendu de longue date et toute précaution était prise. Boule de Neige avait étudié les campagnes de Jules César dans un vieux bouquin découvert dans le corps de logis et il dirigeait les opérations défensives. Promptement, il donna ses ordres et en peu de temps, chacun fut à son poste. Comme les humains vont atteindre les dépendances, Boule de Neige lance sa première attaque. Les pigeons survolent le bataillon ennemi à modeste altitude et lâchent leur fente sur le crâne des assaillants. L'ennemi, surpris, doit bientôt faire face aux oies, à l'embuscade derrière la haie, qui débouche et charge. Les humains les repoussent à grands coups de bourdin. Mais alors, Boule de Neige lance sa seconde attaque. En personne, il conduit ses troupes à l'assaut. Soit aimé la chauve blanche et tous les moutons qui se ruent sur les hommes, donnant du boutoir et de la corne et harcelant de toutes parts. L'âne Benjamin tourne sur lui-même et de ses petits sabots décoche roulade après roulade. Mais une nouvelle fois, les hommes prennent le dessus, grâce à leurs gourdins et à leurs chaussures ferrées. À ce moment, Boule de Neige pousse un cri aigu, signal de la retraite, et tous les animaux de tournée casa. Les hommes poussent des clameurs de triomphe. Et croyant l'ennemi en déroute, ils se précipitent ça et là à ses trousses. C'est ce qu'avait escompté Boule de Neige. Dès que les hommes se furent bien avancés dans la cour, surgissent de l'arrière les trois chevaux, les trois basses et le gros des cochons, jusque-là demeurés en embuscade dans les sables. Les humains, pris à revers, voient leur retraite coupée. Boule de Neige donne le signal de la fin, lui-même prend son droit sur Jones. Celui-ci lève son arme et tire. Les clones se logent dans les chevaux de Boule de Neige et l'ensanglante. Un mouton est abattu, mort. Sans se relâcher, Boule de Neige se jette de tout son poids dans les jambes du propriétaire exproprié qui lâche son fusil et va bouler sur un tas de fumier. Mais le plus horrifiant, c'est encore Malabar, cabré sur ses pattes de derrière et frappant du fer de ses lourds sabots avec une vigueur des talons. Voyant cela, plusieurs hommes lâchent leurs gourdins et tentent de fuir. C'est la panique chez l'ennemi. Tous les animaux le prennent en chasse, la faille du sabot et de la corne, culbutant, piétinant les hommes. Même la chatte s'y met. Bondissant du toit sur les épaules de la vachée, elle lui enfonce ses griffes dans le cou. Les hommes filent hors de la cour, puis s'enfuient sur la route, trop heureux de l'être quitte à bon compte. Ainsi, à 5 minutes de l'invasion et par le chemin même qu'ils avaient pris, ils battaient en retraite, ignominieusement, un troupeau d'oies à leurs choses, leur mordant les jarrets, sifflant les rues. De nouveau rassemblés, les animaux étaient au comble de l'émotion, et à tue-tête chacun racontait ses prouesses au combat. À l'improviste sur le champ, la victoire fut célébrée. On hissa les couleurs, on chanta Bête d'Angleterre plusieurs fois de suite, enfin le mouton qui avait donné sa vie à la cause fut l'objet de funérailles solennelles. Sur sa tombe, on planta une aubépine. À l'unanimité, une déclaration militaire fut créée, celle de héros animal première classe. Et elle fut conférée séance tenante à Boule de Neige et à Malabar. Une autre décoration, celle de héros animal deuxième classe, fut, à titre posthume, décernée au mouton. Longtemps, on discuta du nom à donner au combat pour enfin retenir celui de bataille de l'étable. On ramassa dans la boue le fusil de Mr. Jones, on savait qu'il y avait des cartouches à la ferme. Aussi fut-il décidé de dresser le fusil au pied du mât, tout comme une pièce d'artillerie, et deux fois l'an de tirer une salve, le 12 octobre en souvenir de la bataille de l'étable, et à la Saint-Jean d'été, jour commémoratif du soulèvement. L'hiver durait, et de plus en plus Libby faisait des siennes. Chaque matin, elle était en retard au travail, donnant pour excuse qu'elle ne s'était pas réveillée et se plaignant de douleurs familières en dépit d'un appétit robuste. Au moindre prétexte, elle quittait sa tâche et filait à l'abreuvoir, pour s'y mirer comme une sotte. D'autres rumeurs plus alarmantes circulaient sur son compte. Un jour, Douce la prit à part. Luby, j'ai à te parler tout à fait sérieusement. Ce matin, je t'ai vu regarder par-dessus la haie qui sépare de Fourfou de la ferme des animaux. L'un des hommes de Mr. Pickenton se tenait de l'autre côté. J'ai vu qu'il te causait et te caressait le museau. Qu'est-ce que ça veut dire, ces façons, Luby ?
Pas du tout. Je ne l'ai causé pas. Il ne m'a pas caressé. C'est des mensonges. Des mensonges,
répéta Luby. Mais elle ne put soutenir le regard de Douce, et l'instant d'après fit volte-face et fila au galop dans les champs. 3 jours plus tard, Luby avait disparu. Et 3 semaines durant, on ne sut rien de ses pérégrinations. Puis les pigeons rapportèrent l'avoir vu de l'autre côté de Willingdon, dans les brancards d'une charrette anglaise peinte en rouge et noir, à l'arrêt devant une taverne. Un gros homme au teint rubicon lui caressait le museau et lui donnait des sucres. Sa robe était tendue de frais et elle portait une mèche enrubannée d'écarlate. Par la suite, les animaux ignorèrent tous de ses faits et gestes. En janvier, ce fut vraiment la mauvaise saison. Le froid vous glaçait les sangs. Le sol était dur comme du fer. Le travail hors champ, hors de question. De nombreuses réunions se tenaient dans la grange. On en était venu à admettre que les cochons, étant manifestement les plus intelligents des animaux, décideraient à l'avenir de toute question touchant la politique de la ferme, sous réserve de ratification à la majorité des voix. Cette méthode aurait bien fait l'affaire sans les discussions entre Boule de Neige et Napoléon. Tout sujet prêtant à contestation les opposait. L'un proposait-il un ensemencement d'orge sur une plus grande superficie, l'autre immanquablement plaidait pour l'avoine. Ou si l'un estimait tel champ juste ce qui convient aux choux, l'autre rétorquait betterave. Chacun d'eux avait ses partisans, d'où la violence des débats. Lors des assemblées, Boule de Neige l'emportait souvent, grâce à des discours brillants. Mais entre-temps, Napoléon était le plus apte à rallier le soutien des uns et des autres. C'est auprès des moutons qu'il réussissait le mieux. Récemment, ceux-ci étaient prêts à bêler le slogan révolutionnaire. 4 pattes, oui, 2 pattes, non, à tout propos. Et souvent, ils interrompaient les débats de cette façon. Aucune des controverses entre Boule de Neige et Napoléon n'atteignit cependant en âpreté celle du moulin à vent. Dominant la ferme, un monticule se dressait dans un grand pâturage proche des dépendances. Boule de Neige affirmait y voir l'emplacement idéal d'un moulin à vent. Celui-ci actionnerait un hache-paille, une machine à couper la betterave, une scie circulaire, et il permettrait la traite mécanique. Les animaux n'avaient jamais entendu parler de rien de pareil. Aussi écoutaient-ils avec stupeur Boule de Neige évoquant toutes ces machines mirifiques qui feraient l'ouvrage à leur place, tandis qu'ils pèteraient à loisir ou se cultiveraient l'esprit par la lecture et la conversation. En quelques semaines, Boule de Neige mit définitivement au point ses plans. Il avait établi son cabinet de travail dans une couveuse artificielle aménagée en appentis où il s'enfermait des heures durant. Une pierre posée sur les livres ouverts, un morceau de craie fixé à la pâte, il allait et venait, traçant des lignes sur le plancher. Les autres animaux, absolument dépassés, étaient transportés d'admiration. Seul Napoléon se tenait à l'écart. Dès qu'il en avait été question, il s'était déclaré hostile au moulin à vent. Un jour, néanmoins, il se présenta à l'improviste pour examiner les plans. De sa démarche lourde, il arpenta la pièce, braquant un regard attentif sur chaque détail, et il renifla de dédain une fois ou deux. Un instant, il s'arrêta à lorgner le travail du coin de l'œil, et soudain, il leva la patte. Et incontinent compissa le tout. Ensuite, il sortit sans dire mot. Toute la ferme était profondément divisée sur la question du moulin à vent. Boule de Neige ne niait pas que la construction en serait malaisée. Dans la suite, il déclara que l'économie en main-d'œuvre permettrait aux animaux de ne plus travailler que 3 jours par semaine. Napoléon, quant à lui, arguait que l'heure était à l'accroissement de la production alimentaire. Perdez votre temps, dit-il, à construire un moulin à vent. Tout le monde crèvera de faim. Les animaux se constituèrent en faction rivale. Avec chacune son mot d'ordre, pour l'une, voter pour Boule de Neige la semaine de 3 jours, pour l'autre, voter pour Napoléon et la mangeoire pleine. Seul Benjamin ne s'enrôla sans aucune bannière. Moulin à vent ou pas, disait-il, la vie continuera pareil, mal par conséquent. Le jour vint où les plans de boule de neige furent achevés. À l'assemblée tenue le dimanche suivant, la question fut mise aux voix. Fallait-il ou non commencer la construction du moulin à vent ? Une fois les animaux réunis dans la grange, Napoléon se leva. Le moulin à vent, déclara-t-il avec beaucoup de calme, est une insanité. Il déconseillait à tout le monde de voter le projet, et il se rassit. N'ayant pas parlé 30 secondes et semblant ne guère se soucier de ce produit, sur quoi boule de neige bondit et se lança dans un plaidoyer d'une grande passion en faveur du moulin à vent. En termes flamboyants, il brossa un tableau du futur à la ferme des animaux. Plus de travail sordide, plus d'estime croyée sous le fardeau, et l'imagination aidant, boule de neige loua hautement l'électricité. Celle-ci, proclama-t-il, actionnera batteuses et charrues, permettra d'installer dans les étables la lumière, l'eau courante, chaude et froide. Quand il sera ainsi, nul doute de se fixer sur l'issue du vote. À ce moment, Napoléon se leva, jeta sur boule de neige un regard oblique et singulier, et poussa un gémissement dans l'aigu que personne ne devait encore entendu pousser. Sur quoi ? Ce sont dehors des aboiements affreux. Et bientôt furent à l'intérieur de la grange 9 molosses portant des colliers incrustés de cuivre. Ils se jettent sur boule de neige qui, de justesse, échappa leur croc. L'instant d'après, il avait passé la porte et les chiens à ses trousses. Les animaux se pressèrent en cohue vers la sortie pour voir la poursuite. Boule de neige étalée par le grand pâturage qui mène à la route. Il courait comme seul un cochon peut courir, les chevaux sur ses talons. Les molosses gagnent du terrain et l'un d'eux, tout croc dehors, est sur le point de lui mordre la queue. Dans un élan suprême, boule de neige se faufile par un trou dans la haie et on ne le revit plus. Oh, silence. Terrifiés, les animaux regagnèrent la grange. Bientôt, les chiens furent de retour, toujours au pas accéléré. Tout d'abord, personne ne soupçonna d'où ces créatures pouvaient bien venir, mais on se vit fixé. C'étaient les 9 chiots que Napoléon avait ravis à leur mère et élevés en secret. Pas encore tout à fait adultes, déjà c'étaient des bêtes énormes, avec l'air féroce des loups. Napoléon escalada l'estrade où sage l'ancien avait prononcé son discours. Il annonça que dorénavant, il ne se tiendrait plus d'assemblée du dimanche matin. Elle ne servait à rien, déclara-t-il, pure perte de temps. À l'avenir, toute question relative à la gestion de la ferme serait tranchée par un comité de cochons sous sa propre présidence. Le comité se réunirait en séance privée, après quoi les décisions seraient communiquées aux autres animaux. On continuerait de se rassembler le dimanche matin pour le salut au drapeau, chanter Bête d'Angleterre et recevoir les consignes de la semaine. Mais le débat public était aboli. Entendant ces décisions, les animaux furent concernés. Il se produisit des remous dans le clan même des cochons, chez ceux d'esprit délié. Au premier rang, 4 jeunes gorées piaillèrent leurs protestations dressées sur leurs pattes de derrière. Soudain menaçant et sinistre, les chiens assis autour de Napoléon se prirent à grogner, et les porcelets se turent et se rassirent. Puis ce fut le bêlement formidable du cœur des moutons, 4 pattes, oui, 2 pattes, non, 4, qui se prolongea presque un quart d'heure, ruinant toute chance de discussion. Par la suite, Brille-Babil fut chargé d'expliquer aux animaux des dispositions nouvelles. « Camarades, je suis sûr que chaque animal apprécie à sa juste valeur le sacrifice consenti par le camarade Napoléon à qui va incomber une tâche supplémentaire. N'allez pas imaginer, camarades, que gouverner est une partie de plaisir. De l'égalité de tous les animaux, nul n'est plus fermement convaincu que le camarade Napoléon. Il ne serait que trop heureux de s'en remettre à vous de toute décision. Mais il pourrait vous arriver de prendre des décisions erronées. Et où cela mènerait-il alors ? Supposons qu'après avoir écouté les bisbeusés du moulin à vent, vous ayez pris le parti de suivre Boule de Neige qui, nous le savons aujourd'hui, n'était pas plus qu'un criminel. Il s'est conduit en brave à la bataille de l'étable, dit quelqu'un. La bravoure ne suffit pas reprit Brigadine. La loyauté et l'obéissance passent avant. Pour la bataille de l'étable, le temps viendra où l'on s'apercevra que le rôle de boule de neige a été très exagéré. De la discipline, camarade, une discipline de fer. Un seul faux pas et nos ennemis nous prennent à la gorge. À coup sûr, camarade, vous ne désirez pas le retour de Jones. Une fois de plus, l'argument était sans réplique. Si les débats du dimanche matin étaient susceptibles de ramener Jones, alors qu'on y mette un terme. Malabar exprima le sentiment général. Si c'est le camarade Napoléon qui l'a dit, ce doit être vrai. Et de ce moment, en plus de sa devise propre « Je vais travailler plus dur », il prit pour maxime « Napoléon ne se trompe jamais ». Le troisième dimanche, après l'expulsion de Boule de Neige, les animaux furent bien étonnés d'entendre de la bouche de Napoléon qu'on allait construire le moulin. Napoléon ne donna aucune raison à l'appui de ce retournement, se contentant d'avertir les animaux qu'ils auraient à travailler très dur et peut-être serait-il même nécessaire de réduire les rations. Ce soir-là, Brigadine prit à part les autres animaux, leur expliquant que Napoléon n'avait jamais été vraiment hostile au moulin. Au contraire, il avait préconisé le tout premier. Et pour les plans dessinés par Boule de Neige, ils avaient été dérobés dans les papiers de Napoléon. Oui, le moulin à vent était en propre l'œuvre de Napoléon. Pourquoi donc sent-il alors quelqu'un? Napoléon s'était-il élevé aussi violemment contre la construction de ce moulin? Brigadine prit son air le plus matois, disant combien c'était astucieux de Napoléon d'avoir paru hostile au moulin. Un simple artifice pour se défaire de Boule de Neige. Un individu pernicieux, d'influence funeste. Cela dit, Brigadine, en sautillant et battant l'air de la queue, c'est de la tactique, camarade, de la tactique. On accepta ses explications sans plus insister, tant Brigadine s'exprimait de façon persuasive. Et tant grenier d'un air menaçant les trois molosses qui se trouvaient être de sa compagnie. Toute l'année, les animaux trimèrent comme des esclaves. Mais leur travail les rendait heureux. Ils ne rechignaient ni à la peine ni au sacrifice, sachant bien que de tout le mal qu'ils se donnaient, eux-mêmes recueilleraient les fruits, ou à défaut leur descendance, et non une bande d'humains désœuvrés tirant les marrons du feu. Tout le printemps et pendant l'été, ce fut la semaine de 60 heures. Et en août, Napoléon fit savoir qu'ils auraient à travailler aussi les après-midi du dimanche. Même ainsi, certaines tâches durent être abandonnées. La moisson fut un peu moins belle que l'année précédente, et deux champs, qu'il eût fallu ensemencer de racines au début de l'été, furent laissés en jachère. On pouvait s'attendre à un rude hiver. Comme l'été avançait, différentes choses commencèrent à faire défaut sans qu'on s'y fût attendu. Huile de paraffine, clous, ficelles, biscuits pour les chiens, fer du maréchal Ferrand, tout produit qui ne pouvait pas être fabriqué à la ferme. Plus tard, on aurait besoin encore de graines et d'engrais artificiels, sans compter différents outils et la machinerie du moulin. Comment se procurer le nécessaire? C'est ce dont personne n'avait la moindre idée. Un dimanche matin, que les animaux étaient rassemblés pour recevoir leurs instructions, Napoléon annonça qu'il avait arrêté une ligne politique nouvelle. Dorénavant, la ferme des animaux entretiendrait des relations commerciales avec les fermes du voisinage, non pas bien entendu pour faire du négoce, mais simplement pour se procurer certaines fournitures d'urgente nécessité. Ce qu'exigeait la construction du moulin devait primer toute autre considération. Aussi, était-il en pourparlers pour vendre une meule de foin et une partie de la récolte du blé. Plus tard, en cas de besoin d'argent, il faudrait vendre des œufs. On pouvait les écouler au marché de Willingdon. Les poules, déclara Napoléon, devaient se réjouir d'un sacrifice qui serait leur quote-part à l'édification du moulin à vent. Une fois encore, les animaux éprouvèrent une vague inquiétude. Ne jamais entrer en rapport avec les humains, ne jamais faire de commerce, ne jamais faire usage d'argent, n'était-ce pas là certaines des résolutions prises à l'Assemblée triomphale qui avait suivi l'expulsion de Jones? Tous les autres animaux se rappelaient de les avoir adoptés, ou du moins, ils croyaient en avoir gardé le souvenir. Napoléon dressa la patte pour réclamer le silence, et fit savoir que toutes dispositions étaient déjà prises. Il n'y aurait pas lieu pour les animaux d'entrer en relation avec les humains. De son fardeau, il se chargerait lui-même. Un certain Victor Wimper, avoué à Willingdon, avait accepté de servir d'intermédiaire entre la ferme des animaux et le monde extérieur. Et chaque lundi matin, il viendrait prendre les directives. Napoléon termina son discours de façon coutumière, s'écriant « Vive la ferme des animaux !» Et après avoir entonné « Bête d'Angleterre », on rompit les rangs. Vers ce temps-là, les cochons emménagèrent dans la maison d'habitation dont ils firent leur quartier. Une fois encore, les animaux crurent se ressouvenir qu'une résolution contre ces pratiques avait été votée dans les premiers jours. Mais une fois encore, Brille-Babil parvint à les convaincre qu'il n'en était rien. « Il est d'absolue nécessité, expliqua-t-il, que les cochons, têtes pensantes de la ferme, aient à leur disposition un lieu paisible où travailler. » Certains animaux furent troublés d'apprendre non seulement que les cochons prenaient leur repas à la cuisine et avaient fait du salon leur salle de jeu, mais aussi qu'ils dormaient dans des lits. Douce, croyant se rappeler qu'une interdiction expresse à ce sujet, s'en alla quérir Edmé et se rendit au fond de la grange. « Edmé, dit-elle, lis-moi donc le quatrième commandement. Il n'est-il pas question de ne jamais dormir dans un lit ?»« Ça dit, aucun animal ne dormira dans un lit avec des draps. » Douce ne se rappelait pas qu'il eût été question de draps dans le quatrième commandement, mais puisque c'était inscrit sur le mur, il fallait se rendre à l'évidence. Brille-Babil, qui vint à passer par là avec deux ou trois chiens, fut à même d'expliquer l'affaire sous son vrai jour. « Vous avez entendu dire, camarade, que nous, les cochons, dormons maintenant dans les lits de la maison ? Et pourquoi pas ? Vous n'allez tout de même pas croire à l'existence d'un règlement qui proscrit les lits. Un lit, ce n'est jamais qu'un lieu où dormir. Le tas de paille d'une écurie, qu'est-ce que c'est à bien comprendre sinon un lit ? L'interdiction porte sur les draps. Lesquels sont d'invention humaine ? Or, nous avons enlevé les draps des lits et nous dormons entre des couvertures. Avec ce travail de tête qui désormais nous incombe, vous ne voudriez pas nos outils de sommeil réparateurs, hein, camarades ? Vous ne voudriez pas que nous soyons exténués au point de ne plus faire face à la tâche ? Sans nul doute, aucun de vous ne désire le retour de Jones. L'automne venu au terme d'une saison de travail éprouvante, les animaux étaient fourbus mécontents. Après la vente d'une partie du foin et du blé, les provisions pour l'hiver n'étaient pas fort abondantes, mais le moulin contrebalançait toutes les déconvenues. Il était maintenant presque bâti. Et à leurs heures perdues, les animaux en faisaient le tour à n'en plus finir, admirant la force et l'aplomb des murs, et s'admirant eux-mêmes d'avoir dressé un ouvrage imposant tel que celui-là. Seul le vieux Benjamin se refusait à l'enthousiasme et ne faisait que répéter ses remarques sibyllines sur la longévité de son espèce. Ce fut novembre et les vents déchaînés du sud-ouest. Il fallut arrêter les travaux car avec le temps humide, on ne pouvait plus malaxer le ciment. Une nuit enfin, la tempête souffla si fort que les bâtiments de la ferme vacillèrent sur leurs vacilles et plusieurs tuiles du toit de la grange furent emportées. Au matin, les animaux, une fois dehors, s'aperçurent que le mât avait été abattu et un orme au bas du verger arraché au sol comme un simple radis. Ils en étaient là de leur découverte qu'un cri désespéré leur échappa. C'est qu'ils avaient sous les yeux quelque chose d'insoutenable. Le moulin en ruine. Là, comme un accord, ils se reversent sur le désastre du Napoléon, dont ce n'était pas l'habitude de hâter le pas, courait devant. Et oui, gisait là le fruit de tant de lutte. Ses murs rasés jusqu'aux fondations et ses pierres éparpillées que si péniblement ils avaient cassées et charriées. Stupéfiés, les animaux jetaient un regard de deuil sur ces éboulis. En silence, Napoléon arpentait le terrain de long en large, reniflant de temps à autre, la queue crispée battant de droite et de gauche. Soudain, il fit halte. Camarades, dit-il, savez-vous qui est le fautif ? L'ennemi qui s'est présenté à la nuit et a renversé notre moulin à vent, c'est Boule de Neige. Oui, le traître Boule de Neige, par pure malignité, pour contrarier nos plans et se venger de son expulsion, à la faveur des ténèbres, s'est faufilé jusqu'ici et a ruiné d'un coup un an bientôt de notre labeur. Camarades, de ce moment, je décrète la condamnation à mort de Boule de Neige. Sera héros animal de deuxième classe et recevra un demi-boisson de pommes. Quiconque le conduira sur les bancs de la justice, un boisseau entier à qui le capturera vivant. Presque aussitôt, on découvrit sur l'herbe, à petite distance de la butte, les empreintes d'un cochon. On ne pouvait les suivre que sur quelques mètres, mais elles avaient l'air de conduire à une brèche dans la haie. Napoléon, ayant reniflé de manière significative, déclara qu'il s'agissait bien de Boule de Neige. D'après lui, il avait dû venir de la ferme de Foxwood. Plus d'atermoiements, camarades, s'écria Napoléon. Le travail nous attend. Ce matin même, nous allons nous remettre à bâtir le moulin. Et nous ne décalerons pas de tout l'hiver. Qu'il pleuve ou vente, nous ferons savoir à cet abominable traître qu'on ne fait pas si facilement table rase de notre œuvre. Souvenez-vous-en, camarades, nos plans ne doivent être modifiés en rien. Ils seront terminés aujourd'hui. En avant, camarades. Vive le moulin à vent. Vive la ferme des animaux.
La ferme des animaux, de George Orwell. Seconde partie.
Un rude hiver. Après les orages, la neige et la neige fondue. Puis ce fut le gel qui ne céda que courant février. Vaille que vaille, les animaux poursuivaient la reconstruction du moulin. La tâche leur était pénible et ils n'y apportaient plus qu'un moindre enthousiasme. Ils avaient froid tout le temps. La plupart du temps, ils avaient faim aussi. Seule Malabar et Douce gardaient cœur à l'ouvrage. En janvier, la nourriture vint à manquer. Le blé fut réduit à portion congrue et il fut annoncé que par compensation, une ration supplémentaire de pommes de terre serait distribuée. Or, on s'aperçut que la plus grande partie des pommes de terre avait gelé, n'ayant pas été bien protégées sous la paille. Elles étaient molles et décolorées, peu comestibles. Plusieurs jours d'affilée, les animaux se nourrirent de betteraves fourragères et de paille. Fin janvier, il devint évident qu'il serait indispensable de s'approvisionner en grains quelque part. Un dimanche matin, Bri-Babil déclara que les poules, qui venaient de se remettre à pondre, devraient donner leurs œufs. Napoléon avait conclu par l'intermédiaire de Mr. Whimper un contrat portant sur 400 œufs par semaine. En contrepartie, on se procurerait la farine et le grain jusqu'à l'été. Les poules élevèrent des protestations scandalisées. Elles avaient été prévenues que ce sacrifice pourrait s'avérer nécessaire, mais n'avaient pas cru qu'on en viendrait là. C'était leur couvée de printemps et leur prendre leurs œufs était criminel. Pour la première fois depuis l'expulsion de Jones, il y eut une sorte de révolte. Sous la conduite de trois poulets noirs de Minorque, les poules tentaient résolument de faire échec aux œufs de Napoléon. Leur mode de résistance consistait à se jucher sur les chevrons du comble, d'où les œufs pondus s'écrasaient au sol. La réaction de Napoléon fut immédiate et sans merci. Il ordonna qu'on supprime les rations des poules et décréta que tout animal surpris à leur donner juste un seul grain serait puni de mort. Les chiens veillèrent à l'exécution de ses ordres. Les poules tinrent bon 5 jours, puis de capitulèrent et regagnèrent leur pondoir. 9 d'entre elles, entre-temps, étaient mortes. Whimper n'eut pas du vent de la faire et les œufs furent livrés en temps voulu. La camionnette d'un épicier venait les enlever chaque semaine. Et soudain, au début du printemps, une nouvelle alarmante. Boule de Neige hantait la ferme à la nuit. L'émoi des animaux fut tel qu'ils faillirent en perdre le sommeil. Selon la rumeur, Boule de Neige s'introduisait à la faveur des ténèbres pour commettre sans méfait. C'est lui qui volait le blé, renversait les seaux à lait, cassait les œufs, piétinait les semis, écorchait les arbres fruitiers. On prit l'habitude de lui imputer tout forfait, tout contre-temps. Si une fenêtre était brisée, un égout obstrué, la faute lui en était toujours attribuée. C'était comme si Boule de Neige, présence impalpable, toujours à rôder, les menaçait de sans danger. Un soir, Bribadis les fit venir tous. « Camarades !» s'écria-t-il en sautillant nerveusement. « Nous avions cru la révolte de Boule de Neige causée par la vanité et l'ambition, mais nous avions tort, camarades. Du premier jour, Boule de Neige était de messe avec Jones. Il n'a cessé d'être son agent. Nous en tenons la preuve de documents secrets que nous venons de découvrir. À mon sens, camarades, voilà qui explique bien des choses. N'avons-nous pas vu de nos yeux comment il tenta sans succès, heureusement, de nous entraîner dans la défaite et l'anéantissement lors de la bataille de l'étable ? » Les animaux étaient stupéfiés. Ils se rappelaient tous Boule de Neige chargeant à leur tête à la bataille de l'étable, les ralliant sans cesse et leur redonnant peur au ventre, alors même que les plombs de Jones lui écorchaient les chines. Ils voyaient mal comment il aurait pu être en même temps du côté de Jones. Même Malabar, qui ne posait guère de questions, demeurait perplexe. À la bataille de l'étable, Boule de Neige se conduit en brave. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a été blessé. Tous, nous l'avons vu qui courait en perdant son sang. Cela faisait partie aussi de la machination, s'écria Bribadil. Le coup de fusil de Jones n'a fait que les rafler. Si vous saviez lire, je vous en donnerai la preuve écrite de sa main. De complot pour voyer qu'au moment critique, Boule de Neige donnerait le signal du sauve-qui-peut, abandonnant le terrain à l'ennemi. Et il a réussi, oui, camarade. Il aurait réussi. Il était votre chef héroïque, le camarade Napoléon. Enfin, qu'est-ce que vous l'auriez oublié? Au moment même où Joe et ses hommes pénétraient dans la cour, alors même que tout semblait perdu, le camarade Napoléon s'est lancé en avant, au cri de « mort à l'humanité », mordant Jones au mollet. De cela, sûrement, vous vous rappelez, camarade. Entendant le récit de cette scène haute en couleur, les animaux avaient l'impression de se rappeler, mais Malabar, toujours un peu mal à l'aise, finit par dire « Je ne crois pas que Boule de Neige était un traître au commencement. À la bataille de l'étable, il a agi en vrai camarade. » Notre chef camarade Napoléon a déclaré catégoriquement, camarade, que Boule de Neige était l'agent de Jones depuis le début. Oui, même bien avant que nous ayons envisagé le soulèvement. Ah, c'est autre chose dans ce cas-là. Si c'est le camarade Napoléon qui le dise, ce doit être vrai. À la bonne heure, camarade, s'écria Bribadil. Non, sans avoir jeté de ses petits yeux pétillants un regard mauvais sur Malabar. Sur le point de s'en aller, il se retourna et ajouta d'un ton solennel. J'en avertis chacun de vous, il va falloir ouvrir l'œil et le bon, car nous avons des raisons de penser que certains agents secrets de Boule de Neige se cachent parmi nous à l'heure actuelle. 4 jours plus tard, en fin d'après-midi, Napoléon donna ordre à tous les animaux de se rassembler dans la cour. Quand ils furent tous réunis, il sortit de la maison de la ferme, portant 2 décorations qu'il s'était attribuées récemment. Il était entouré de ses 9 molosses qui grondaient. Les animaux en avaient froid dans le dos et chacun se tenait tapis en silence, comme en attente de quelque événement terrible. Napoléon jeta sur l'assistance un regard dur, puis émit un cri suraigu. Immédiatement, les chiens bondirent en avant, saisissant 4 cochons par l'oreille. C'étaient les jeunes dorés qui avaient protesté quand Napoléon avait aboli l'assemblée du dimanche. Les chiens les traînèrent, glapissants et terrorisés, juste sur l'estrade. Les oreilles des cochons saignaient, et on lisait sur leurs traits le sentiment d'une faute. Napoléon les invita à confesser leurs crimes. Sans autre forme de procès, ils avouèrent. Oui, ils avaient entretenu des relations secrètes avec Boule de Neige depuis son expulsion. Oui, ils avaient collaboré avec lui à l'effondrement du moulin à vent. Ils furent en fort état de confidence du traître. Depuis des années, il était bien l'agent secret de Jones. Leur confession achevée, les chiens les égorgèrent. Alors, d'une voix terrifiante. Napoléon demanda si nul autre animal n'avait à faire des aveux. Les trois poulets qui avaient mené la combustion dans l'affaire des œufs s'avancèrent, disant que Boule de Neige leur était apparue en rêve, qui les avait incités à désobéir aux ordres de Napoléon. Eux aussi furent massacrés. Puis une oie se présenta. Elle avait dérobé 6 épis de blé à la moisson de l'année précédente et les avait mangés de nuit. Et de cette façon, aveux et exécutions se poursuivirent. À la fin, ce fut au pied de Napoléon un amoncellement de cadavres. Et l'air était lourd d'une odeur de sang inconnue depuis le bannissement de Jones. Le reste des animaux, cochons et chiens acceptés, s'éloigna en foule furtive. Il frissonnait d'horreur et n'aurait pas pu dire ce qui les bouleversait le plus. La trahison de ceux ayant parti lié avec Boule de Neige ou la cruauté du châtiment. Ayant gagné le monticule où s'élevait le moulin, là comme un accord, les animaux se couchèrent, blottis côte à côte pour se faire chaud. Il y avait là Douce, Edmé et Benjamin, les vaches et les moutons, et tout un troupeau mêlé d'oies et de poules. Les animaux se taisaient. La plus grande partie de la ferme des animaux était sous leurs yeux. Le pâturage tout en longueur jusqu'à la route, le champ de foin, le boqueteau, l'abreuvoir, les labours où le blé vert poussait dru, la transparence d'un soir de printemps. L'herbe et les haies chargées de bourgeons se doraient au soleil, oblique du soleil. Jamais la ferme ne leur avait paru si enviable. Suivant du regard le versant du coteau, les yeux de Douce semblaient de larmes. Si elle était capable d'exprimer ses pensées, alors elle aurait dit « Mais ce n'était pas là ce que nous avions entrevu, que nous avions en tête de renverser l'espèce humaine. Ces scènes d'épouvante et ces massacres, ce n'était pas ce que nous avions appelé de nos voeux la nuit où sage l'ancien avait exalté en nous l'idée du soulèvement. Elle-même, ce qu'elle sait, une image du futur, serait été celle d'une société d'animaux libérés de la faim et du fouet. Ils auraient été tous égaux. Chacun aurait travaillé suivant ses capacités, le fort protégeant le faible. Au lieu de quoi, elle aurait su dire comment c'était arrivé. Les temps sont venus où personne n'ose parler franc, partout grogne des chiens féroces. Où l'on assiste à des exécutions de camarades dévorés à pleines dents, après avoir avoué des crimes affreux. À la fin, elle se mit à chanter Bête d'Angleterre, se disant qu'elle exprimerait ainsi ce que ses propres paroles n'auraient pas su dire. Alors les autres animaux assis autour d'elle reprirent en chœur le chant révolutionnaire, 3 fois de suite, mélodieusement, mais avec une lenteur funèbre, comme ils n'avaient jamais fait encore. Bête d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. Oh, comme brillent tous nos chants, comme est plus pure l'eau d'ici, plus doux aussi souffle le vent du jour que l'on est affranchi. Bêtes d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. À peine avait-il fini de chanter pour la 3e fois que Brille-Babil, escorté de 2 molosses, s'approcha de l'air de qui a des choses importantes à faire savoir. Il annonça que désormais, en vertu d'un décret spécial du camarade Napoléon, chanter Bête d'Angleterre était interdit. Tout le long de cette année-là, ils travaillèrent encore plus dur que l'année précédente. Achever le moulin en temps voulu avec des murs 2 fois plus épais qu'auparavant, tout en menant de pair les travaux coutumiers, c'était un labeur écrasant. Certains jours, les animaux avaient l'impression de trimer plus longtemps qu'à l'époque de Jones, sans en être mieux nourris. Le dimanche matin, Brille-Babil, tenant un long ruban de papier dans sa petite patte, leur lisait des colonnes de chiffres. Il en résultait une augmentation marquée de la production, avoine, foin et navet, de 100, 300 ou 500% suivant les cas. Une réduction du temps de travail, un progrès en longévité, une mortalité infantile en régression. Tous les ordres leur étaient maintenant transmis par Bribabile ou l'un des autres cochons. C'est tout juste si chaque quinzaine, Napoléon se montrait en public. Mais alors, le cérémonial était renforcé. À ses chiens s'ajoutait un jeune coq noir et fiérot qui précédait le chef, faisait office de trompette et, avant qu'il ne prît la parole, poussait un cocorico ardent. Napoléon n'est plus jamais désigné par un seul patronyme. Toujours on se référait à lui en langage de protocole. Notre chef, le camarade Napoléon. De plus, les cochons se plaisaient à lui attribuer des titres tels que « père de tous les animaux », « terreur du genre humain », « protecteur de la bergerie », « ami des canetons », ainsi de suite. C'était devenu l'habitude de rendre honneur à Napoléon de tout accomplissement heureux et hasard propice. Aussi entendait-on fréquemment une poule déclarer à une autre commère poule « C'est la conduite éclairée du camarade Napoléon, notre chef, en 6 jours j'ai pondu 5 !» Ou encore, c'était deux vaches à l'abreuvoir s'exclamant « Grâce soit rendue aux lumières du camarade Napoléon, car cette eau a un goût excellent !» Au cœur de l'été, les animaux en grand émoi apprirent que 3 poules avaient spontanément avoué leur participation à un complot de boules de neige en vue d'assassiner Napoléon. Elles furent exécutées sans délai et de nouvelles précautions furent prises pour la sécurité du chef. La nuit, 4 chiens montèrent la garde autour de son lit, 1 à chaque coin, et à un petit goré du nom d'œil rose fut confiée la charge de goûter sa nourriture, de peur d'un empoisonnement. À l'automne, au prix d'un effort harassant qui tenait du prodige, le moulin à vent fut achevé. S'y manquaient les moyens mécaniques de son fonctionnement, le corps de l'édifice existait. Au-dessus de tous les obstacles, malgré le manque d'expérience et les moyens primitifs à leur disposition, la malchance et la perfidie de boules de neige, l'ouvrage était debout aujourd'hui. Épuisés mais fiers, les animaux faisaient à n'en plus finir le tour de leur chef-d'œuvre, encore plus beau à leurs yeux que la première fois. Les murs en étaient 2 fois plus épais, et rien désormais, rien ne pourrait plus anéantir le moulin qu'une charge d'explosifs. Et repensant à la peine qu'ils avaient prise, aux périodes de découragement surmontées, et à la vie tellement différente qui serait la leur quand les ailes tourneraient, les dynamos fonctionneraient, à la pensée de toutes ces choses, leur lassitude céda, et ils se mirent à cabrioler autour de leur œuvre, poussant des cris de triomphe. Napoléon lui-même, accompagné de ses chiens et de son jeune coq, se rendit sur les lieux, en personne, félicita les animaux de leur réussite, et fit connaître que le moulin serait nommé Moulin Napoléon. L'été s'avançant, la construction du moulin touchant à sa fin, les bruits se firent de plus en plus insistants d'une attaque perfide, déclenchée d'un moment à l'autre. L'édification du moulin avait soulevé une jalousie effrénée chez les humains, et Mr. Frédéric, le propriétaire de Pinchfield, se proposait de lancer contre la ferme des animaux une 20aine d'individus armés de fusils. Il avait aussi soudoyé les hommes de loi et la police. Des sentinelles furent disposées sur toutes les voies d'accès à la ferme. L'attaque eut lieu dès le lendemain matin. Les animaux prenaient leur premier repas quand les guetteurs firent irruption, annonçant que Frédéric et ses partisans avaient déjà franchi la clôture aux 5 barreaux. Crânement, les animaux se portèrent à leur rencontre. Mais cette fois, la victoire ne fut pas aussi facile qu'à la bataille de l'étable. Les hommes, 10, étaient armés de 6 fusils. Et quand les animaux furent à 50 mètres, ils ouvrirent le feu. Les défenseurs, ne pouvant faire face aux explosions épouvantables et aux cuisantes brûlures de plomb, reculèrent, malgré les efforts de Napoléon et de Malabar pour les rameuter. Les animaux se replièrent sur les dépendances de la ferme, épiant les nids par les fentes et fissures de portes. Tout le grand herbage, moulin compris, était tombé aux mains des assaillants. Frédéric et ses gens avaient fait halte auprès du moulin. Un murmure de consternation parcourut les animaux qui les regardaient faire. deux hommes avaient brandi une masse et une barre servant de levier. Ils s'apprêtaient à faire sauter le moulin. « Ils n'ont aucune chance !» s'écria Napoléon. « Nos murs sont bien trop épais. En une semaine, ils n'y parviendraient pas. Courage, camarades !» Bientôt, on vit les hommes s'égayer de tous côtés. Puis un grondement assourdissant. Un énorme nuage de fumée noire planait sur le lieu où le moulin s'était élevé. Lentement, la brise dissipa la nuée. Le moulin avait cessé d'être. Voyant cela, les animaux reprennent courage. La peur et le désespoir éprouvés quelques instants se possèdent devant leur rage contre tant de vilainies. Une immense clameur de vengeance s'élève, et sans attendre les ordres, ils se jettent en masse droit sur l'ennemi. Et c'est comme si, leur fond de rien, les plombs qui brûlent comme grêle s'abattent alentour. C'est une lutte âpre et sauvage. Les hommes lâchant salve sur salve, puis quand les animaux les serrent de près, les harcelant de leurs bourdins et de leurs lourdes bottes. Une vache, trois moutons et deux oies périssent, et presque tous sont blessés. Napoléon lui-même, qui de l'arrière dirige les opérations, voit sa queue lacérée par un plomb. Mais les hommes n'ont pu le sentir pas indemne. À coups de sabot, Malabar fracasse trois têtes. Un autre assaillant est éventré par une vache. Un autre encore a le pantalon mis à mal par les chiennes, Constance et Fleur. Et quand Napoléon lâche les neuf molosses de sa garde, leur ayant enjoint de tourner l'ennemi sous couvert de la haie, les hommes, les apercevant sur leur flanc et entendant leurs aboiements féroces, sont pris de panique. Frédéric crie à ses hommes de détaler pendant qu'il en reste encore tant. C'est un sauve qui peut, un sauve sa peau. Les animaux prennent les hommes en chasse. Ils les traquent jusqu'au bas du champ. Et là, les voyant se profiler à travers la haie, ils les obligent encore quelques ruades. Vainqueur, mais à bout de force et couvert de sang, c'est Clopin Clopin qu'ils regagnèrent la ferme. Voyant l'herbe jonchée de leurs camarades morts, certains d'entre eux pleuraient. Quelques instants, ils se recueillirent, affligés, devant le lieu où s'était élevé le moulin. Oh, il n'y avait plus de moulin. Et les derniers vestiges de leur ouvrage étaient presque effacés. Même les fondations étaient en partie détruites. Et pour le reconstruire, cette fois, ils ne pourraient plus se servir des pierres fracassées au sol, car elles aussi avaient disparu. La violence de la déflagration les avait projetés à des centaines de mètres, et c'était comme si le moulin n'avait jamais été. Comme ils approchaient de la ferme, Bridabille, qui inexplicablement on n'avait pas vu au combat, vint au-devant d'eux, sautillant et trémoussant de la queue, l'air ravi. Et les animaux perçurent, venus des dépendances, retentissant et solennel, un coup de feu. « Qu'est-ce que c'est, ce coup de fusil ?» dit Malabar. « C'est pour célébrer la victoire !» s'exclama Bridabille. « Quelle victoire ?» demanda Malabar. Ses genoux étaient en sang. Il avait perdu un fer et écorché son sabot. Une dizaine de plombs s'était logé dans sa jambe de derrière. « Quelle victoire, camarade ?» N'avons-nous pas chassé l'ennemi de notre sol, le sol sacré de la ferme des animaux? Mais ils ont détruit le moulin, et deux ans nous y avions travaillé. Et alors? Nous en bâtirons un autre, et nous en bâtirons six, si ça nous faut. Camarades, tu n'estimes pas nos prouesses à leur aune. L'ennemi foulait au pied notre sol même, et voici que, grâce en soit rendue aux camarades de Napoléon et à ses qualités de chef, nous en avons reconquis jusqu'au dernier pouce. Alors nous avons repris ce que nous avions déjà, dit Malabar. Ils entrèrent, tout clopinant, dans la cour. La patte de Malabar lui fusait douloureusement là où les plombs s'étaient fichés sous la peau. Il entrevoyait quel lourd labeur digérait la reconstruction du moulin à partir des fondations. Et déjà, à la pensée de cette tâche, dans l'esprit, il se revigorait. Mais pour la première fois, il lui vint qu'il avait 11 ans maintenant, et que peut-être ses muscles n'avaient pas la même force dans le temps. Lorsque les animaux vinrent dire flotter le drapeau vert et entendirent qu'on tirait le fusil de nouveau, 7 fois en tout, et quand enfin Napoléon les félicita de leur courage, alors il leur sembla qu'ils avaient, après tout, remporté une grande victoire. Aux bêtes massacrées au combat, on fit des funérailles solennelles. Ce furent chants et discours et encore d'autres salves de fusils. Et par faveur spéciale, chaque animal reçut une pomme. Il fut proclamé que la bataille porterait le nom de bataille du moulin à vent et l'on apprit que Napoléon avait, pour la circonstance, créé une décoration nouvelle, l'ordre de la bannière verte, qu'il s'était conféré à lui-même. À quelques jours de là, les cochons tombèrent par hasard sur une caisse de whisky, oubliée dans les caves. Personne n'y avait prêté attention en prenant possession des locaux. Cette même nuit, on entendit, venu de la maison, des chansons braillées à sucette et auxquelles se mêlaient, à la surprise générale, des accents de bêtes d'Angleterre. Sur les 9h30, on reconnut distinctement Napoléon, le chef coiffé d'un vieux melon ayant appartenu à Jones, qui surgissait par la porte de l'office, galopait à travers la cour, puis s'engouffrait de nouveau à l'intérieur. Le lendemain, un lourd silence pesa sur la ferme des animaux, et pas un cochon qui donna signe de vie. On allait sur les 9h quand Brie-Babile fit son apparition. L'air incertain, l'allure déjetée, l'œil terne, la queue pendante et flasque, enfin faisant pitié. Bientôt, il rassembla les animaux pour leur faire part d'une nouvelle épouvantable. Le camarade Napoléon se mourait. Ce ne furent que lamentations. On couvrit de paille le seuil des portes et les animaux allaient sur la pointe des pattes. Les larmes aux yeux, ils se demandaient les uns et les autres ce qu'ils allaient faire si leur chef leur était enlevé. Une rumeur se répandit. Boule de Neige avait réussi à glisser du poison dans sa nourriture. Dans la soirée, il apparut que Napoléon avait repris du poil de la bête. Et le lendemain matin, Brie-Babile rapporta qu'il était hors de danger. Au soir de ce jour-là, il se remit au travail et le jour suivant, on apprit qu'il avait donné instruction à Winter de se procurer à Willingdon des opuscules, expliquant comment se distille et fabrique la bière. Une semaine plus tard, il ordonnait de labourer le petit enclos attenant au verger primitivement réservé aux animaux devenus inaptes au travail. On en donna pour raison le mauvais état du pâturage et le besoin de l'ensemencer à neuf. Mais, on le sut bientôt, c'était de l'orge que Napoléon désirait y planter. Vers ce temps-là, survint un incident bizarre dont le sang s'échappa à presque tout le monde. Un fracas affreux dans la cour vers les minuit. Les animaux se ruèrent dehors où c'était le clair de lune. Au pied du mur de la grange, là où étaient inscrits les 7 commandements, ils virent une échelle brisée en deux et à côté, Brie-Babile étendue sur le ventre, paraissant avoir perdu connaissance. Autour de lui s'était éparpillée une lanterne, une brosse et un pot renversé de peinture blanche. Tout aussitôt, les chiens firent cercle autour de la victime, et dès qu'elle fut à même de marcher, sous escorte la ramenèrent au logis. Aucun des autres animaux n'avait la moindre idée de ce que cela pouvait vouloir dire, sauf le vieux Benjamin, qui d'un air entendu hochait le museau, quoique décidé à se taire. Quelques jours plus tard, la chèvre aînée, en train de déchiffrer les 7 commandements, s'aperçut qu'il en était encore un autre que les animaux avaient compris de travers. Ils avaient toujours cru que le 5e commandement énonçait « Aucun animal ne boira d'alcool ». Or, 3 mots leur avaient échappé. Le commandement disait « Aucun animal ne boira d'alcool à l'excès ». Le sabot fendu de Malabar fut long à guérir. La reconstruction du moulin avait commencé dès la fin des fêtes de la victoire. Malabar refusa de prendre un seul jour de repos. Et il se faisait un point d'honneur de ne pas montrer qu'il souffrait. Le soir, il avouait à Douce, en confidence, que son sabot lui faisait mal, et Douce lui posait des cataplasmes de plantes, qu'elle préparait en les mâchonnant. Benjamin se joignait à elle pour l'exhorter à prendre moins de peine. Elle lui disait « Les bronches d'un cheval ne sont pas éternelles ». Mais Malabar ne voulait rien entendre. Il n'avait plus, disait-il, qu'une seule vraie ambition, voir la construction du moulin bien avancée avant qu'il n'atteigne l'âge de la retraite. Dans les premiers temps, quand avaient été énoncées les lois de la ferme des animaux, l'âge de la retraite avait été arrêté à 12 ans pour les chevaux et les cochons, 14 pour les vaches, 7 pour les moutons, 5 pour les poules et les oies. On s'était mis d'accord sur une estimation libérale du montant des pensions. Pourtant, aucun animal n'avait encore bénéficié de ces avantages. Pour un cheval, on évaluait la pension à 5 livres de grains et en hiver 15 livres de foin, plus plus au jour férié une carotte ou une pomme. Le 12e anniversaire de Malabar tombait l'été de l'année suivante. En attendant, la vie était dure. L'hiver fut aussi rigoureux que le précédent et les portions encore plus réduites. Sauf pour les cochons et les chiens. Une trop stricte égalité des rations expliquait Brigabille qu'il s'était contraire au principe de l'animalisme. De toute façon, il n'avait pas de mal à prouver aux autres animaux qu'en dépit des apparences, il n'y avait pas pénurie de fourrage. En outre, l'eau était plus pure. La paille plus douce au sommeil. On était moins dévoré par les puces. Et tout s'en croyait sur parole. À la vérité, Jones, avec tout ce qu'il avait représenté, ne leur rappelait plus grand-chose. Ils savaient bien la rudesse de leur vie à présent et que souvent ils avaient faim et froid, et qu'en dehors des heures de sommeil, le plus souvent ils étaient attrimés. Mais, sans doute, ça avait été pire dans les anciens temps. Ils étaient contents de le croire. Il y avait bien plus de bouches à nourrir désormais. À l'automne, les quatre truies avaient mis bas presque en même temps, d'où à elles toutes seules 31 nouveau-nés. Il fut annoncé que plus tard, une fois briques et bois de charpente à pied d'œuvre, on construirait une école dans le potager. Pour le moment, Napoléon avait pris sur lui-même d'enseigner les jeunes gorées dans la cuisine. Et il s'amusait, et prenait de l'exercice dans le jardin attenant à la maison. On les détournait de se mêler au jeu des autres animaux. Vers ce temps-là, fut posé en principe que tout animal trouvant un cochon sur son chemin aurait à lui céder le pas. De plus, tous les cochons, quel que fût leur rang, joueraient du privilège d'être vus, le dimanche, un ruban vert à la queue. À l'après-midi de fin de février, un riche et appétissant relent, tel que jamais les animaux n'en avaient humé de pareil, sauta dans la cour. Il filtrait de la petite brasserie située derrière la cuisine, que Jones avait laissée à l'abandon. Quelqu'un avança l'opinion qu'on faisait bouillir de l'orge. Les animaux reniflaient l'air, évidemment, et ils se demandaient si peut-être ils auraient un brouet chaud pour leur souper. Mais il n'y eut pas de brouet chaud. Et le dimanche suivant, on fit connaître que dorénavant, tout l'orge serait réservé aux cochons. Le champ derrière le verger en avait été déjà semé, et la nouvelle transpira bientôt. Tout cochon toucherait sa ration quotidienne de bière, une pinte pour le commun d'entre eux, et pour Napoléon 10, servie dans la soupière de porcelaine de Derby, marqué d'une couronne. S'il fallait souffrir bien les épreuves, on en était en partie dédommagé car on vivait bien plus dignement qu'autrefois. Il y avait plus de chants, plus de discours, plus de défilés. Napoléon avait ordonné une manifestation spontanée hebdomadaire, avec pour objet de célébrer les luttes et triomphes de la ferme des animaux. À l'heure convenue, tous quittaient le travail et marchaient au pas, cadencés autour du domaine. Une, deux, en formation militaire. Les cochons allaient devant, puis c'était dans l'ordre, les chevaux, les vaches, les moutons, enfin la menue volaille. Les chiens se tenaient en circule. Tout en tête du cortège avançait le petit coq noir. Vive le camarade Napoléon ! Après quoi étaient récités des poèmes en l'honneur de Napoléon. Puis Brigabille prononçait un discours nourri des dernières nouvelles, faisant état d'une production accrue en biens de consommation, et de temps en temps, on tirait un coup de fusil. Ainsi, grâce aux chants et défilés, et aux chiffres et sommes de Brigabille, et aux fusils qui sonnent, et aux cocoricots du coquelet, et aux drapeaux au vent, ils pouvaient oublier, un temps, qu'ils avaient le ventre creux. Son sabot guéri, Malabar travailla plus dur que jamais. À la vérité, cette année-là, tous les animaux peinèrent comme des esclaves. Quelquefois, leur long labeur avec cette nourriture insuffisante et les épuisait. Mais Malabar, lui, ne faiblissait jamais. Il n'avait plus ses forces d'autrefois, mais rien dans ses faits et gestes ne le trahissait. Seule son apparence avait un peu changé. Sa robe était moins luisante, ses reins semblaient se creuser. Malabar va se requinquer avec l'herbe du printemps, disaient les autres. Mais ce fut le printemps et Malabar ne reprit pas de poids. Une fois encore, Douce et Benjamin lui dirent de faire attention à sa santé, mais lui n'en faisait toujours qu'à sa tête. Son 12e anniversaire était proche. Eh bien, advienne que pourra, pourvu qu'avant de prendre sa retraite, il ait rassemblé un tas de pierres bien conséquents. Tard, un soir d'été, des pigeons se précipitèrent tout d'un coup dans la cour, et une rumeur fit le tour de la ferme. Malabar est tombé. Il est couché sur le flanc. Il ne peut plus se relever. Près de la moitié des animaux coururent au mamelon où se dressait le moulin. Malabar gisait là, étendu entre les brancards de la charrette, les flancs gluants de sueur, tirant sur l'encolure et le regard vitreux, incapable même de redresser la tête. Un mince filet de sang lui était venu à la bouche. Douce se mit à genoux à côté de lui. « C'est les bronches, » balbutia Malabar. « Ça ne fait rien. Je crois que vous serez en mesure de finir le moulin sans moi. Il y a un tas de pierres bien conséquent. Je n'avais plus qu'un mois de travail devant moi de toute façon. Et pour tout te dire, j'avais hâte de prendre ma retraite. » Douce resta seule sur place avec Benjamin qui, sans un mot, s'étendit à côté de Malabar et de sa longue queue se mit à chasser les mouches qui l'embêtaient. Un quart d'heure plus tard, à peu près, Bri-Babil se présenta, plein de sollicitude. Il déclara que le camarade Napoléon avait appris avec la plus profonde affliction le malheur survenu à l'un des plus fidèles serviteurs de la ferme et que déjà il prenait ses dispositions pour le faire soigner à l'hôpital de Willingdon. À ces mots, les animaux ne se sentirent pas trop rassurés. À part Lubie et Boule de Neige, jusque-là aucun animal n'avait quitté la ferme, et l'idée de remettre leurs camarades malades entre les mains des hommes ne leur disait rien du tout. Bri-Babil les rassura vite. Le vétérinaire de Willingdon s'occuperait de Malabar bien mieux qu'on ne l'aurait pu faire à la ferme. Et à peu près une demi-heure plus tard, une fois Malabar plus ou moins remis et debout, tant bien que mal, on le ramena clopin-clopant à l'écurie, où Douce et Benjamin lui avaient préparé un bon lit de paille. Les deux jours suivants, Malabar ne quitta pas son bosse. Le soir, Douce couchait à côté de lui et pendant que Benjamin chassait les mouches, elle lui faisait la conversation. Malabar déclarait n'être pas fâché de ce qui était arrivé. Une fois qu'il aurait récupéré, il se donnait encore 3 ans à vivre et se faisait une fête de couler des jours paisibles dans un coin de l'herbage. Pour la première fois, il aurait des loisirs et pourrait se cultiver l'esprit. Il avait l'intention, disait-il, de passer le reste de sa vie à apprendre les 21 autres lettres de l'alphabet. Benjamin et Douce ne pouvaient retrouver Malabar qu'après les heures de travail, et ce fut au milieu de la journée que le fourgon vint le prendre. Les animaux étaient à s'arquer des navets sous la garde d'un cochon, quand ils furent stupéfaits de voir Benjamin accouru au galop des dépendances et braillant à tue-tête. Il ne l'avait jamais connu dans un état pareil. « Vite, vite » cria-t-il, « venez tout de suite, ils emmènent Malabar !» Sans attendre les ordres du cochon, les animaux plantèrent là le travail et se hâtèrent de regagner le bâtiment. Il y avait dans la cour, tirée par 2 chevaux et conduit par un homme à la mine chafouine, un melon rabattu sur le front, un immense fourgon fermé. Et le box de Malabar était vide. Les animaux se pressèrent autour du fourgon, criant en chœur « Au revoir, Malabar ! Au revoir ! Au revoir !»« Bandit Joe !» se mit à brère Benjamin. Il piaffait et trépignait de ses petits sabots. « Bandit Joe ! Est-ce que vous ne voyez pas comme c'est écrit sur le fourgon ?» Les animaux se turent, et même ce fut un profond silence. Edmé s'était mise à épeler les lettres, mais Benjamin l'écarta brusquement. « Alfred Simon, écarisseur et fabricant de matières adhésives, Willingdon !» Négociant peau et engrais animal, fourniture de chenille. Y êtes-vous maintenant? Ils emmènent Malabar pour l'abattre! Un cri d'horreur s'éleva, poussé par tous. Dans l'instant, l'homme fauta ses chevaux, et à bon trot, le fourgon quitta la cour. Les animaux s'élancèrent après lui, criant de toute leur force. Douce s'était faufilée en tête, s'efforçant de pousser sur ses jambes trop fortes. Malabar! Fais-le, Malabar! Sauve-toi! Sauve-toi vite, il te mène à la mort. Mais déjà la voiture gagnait de vitesse. Il n'était pas sûr que Malabar eût entendu l'appel de Douce, mais on l'entendit tambouriner et trépigner à l'intérieur du fourgon de tous ses sabots, un fracas terrifiant. Il essayait, à grande ruade, de défoncer la voiture. Le temps avait été où de quelques coups de sabots il l'aurait pulvérisé, mais hélas, sa force avait abandonné. Au désespoir, les animaux se prirent à conjurer les 2 chevaux qui tiraient le fourgon. « Qu'ils s'arrêtent donc ! Camarades, camarades, ne menez pas votre propre frère à la mort !» Mais c'était des brutes bien trop ignares pour se rendre compte de ce qui était en jeu. Ils se contentèrent de rabattre les oreilles et forcèrent le frein. Trop tard, quelqu'un eut l'idée de filer devant. et de refermer la clôture au sein de barreaux. Le fourgon la franchissait déjà et bientôt dévala la route et disparut. On ne revit jamais Malabar. 3 jours plus tard, il fut annoncé qu'il était mort à l'hôpital de Willingdon, en dépit de tous les soins qu'on puisse donner à un cheval. C'était Bridabille qui annonçait la nouvelle. Il était là, dit-il, lors du dernier moment. Le spectacle le plus émouvant que j'ai jamais vu, déclara-t-il, de la patte s'essuyant une larme. J'étais à son chevet tout à la fin. Et comme il était trop faible pour parler, il m'a confié à l'oreille son unique chagrin, qui était de rendre l'âme avant d'avoir vu le moulin achevé. En avant, camarade, disait-il dans son dernier souffle, en avant, au nom du soulèvement. Vive la ferme des animaux, vive le camarade Napoléon. Napoléon ne se trompe jamais. Telles furent ses dernières paroles, camarade. Les animaux éprouvèrent un profond soulagement à ces paroles. Et quand Bridabille leur eut donné d'autres explications magnifiques sur le dernier moment de Malabar, les soins admirables dont il avait été entouré, les remèdes hors de prix payés par Napoléon sans qu'il se fût soucié du coup, alors leurs derniers doutes furent levés et le chagrin qu'ils éprouvaient de la mort de leurs camarades fut adouci à la pensée qu'au moins ils étaient morts heureux. Le dimanche suivant, Napoléon en personne apparut à l'assemblée du matin. Et il prononça une brève allocution pour célébrer la mémoire du regretté camarade. Il n'avait pas été possible, dit-il, de ramener ses restes afin de les inhumer à la ferme. Mais une couronne imposante qu'on ferait avec des lauriers du jardin serait déposée sur sa tombe. Les cochons comptaient organiser, sous quelques jours, un banquet commémoratif en l'honneur du défunt. Au jour fixé du banquet, une camionnette d'épicier vint de Willingdon, livrait à la maison une grande caisse à claire-voix. Cette nuit-là s'éleva un grand tintamarre de chansons, suivi, on dit, d'une querelle violente qui, sur les 11 heures qui fin, par un fracas de verre brisé. Personne dans la maison de l'éducation ne donna signe de vie avant le lendemain midi. Et le bruit courut que les cochons s'étaient procurés, on ne savait où ni comment, l'argent d'une autre caisse de whisky. Les années passaient. L'aller et retour des saisons emportaient la vie brève des animaux. Et le temps vint où les jours d'avant le soulèvement ne leur dirent plus rien. Seule la jument douce et le vieil âne attrabilaire Benjamin et certains cochons se souvenaient encore. La chèvre Edmée était morte. Les chiens Fleur, Constance et Filou étaient morts. Jones lui-même était mort, alcoolique, pensionnaire d'une maison de santé dans un autre pays du pays. Boule de Neige était tombée dans l'oubli. Malabar aussi était tombée dans l'oubli, sauf pour quelques-uns de ceux qu'il avait connus. Douce était maintenant une vieille jument pansue, aux membres perclus et aux yeux chassés. Elle avait dépassé de 2 ans la limite d'âge des travailleurs, mais en fait jamais un animal n'avait profité de la retraite. Napoléon était un cochon d'âge avancé et pesait 150 kilos. Bridabille était si bouffi de graisse que c'est à peine s'il pouvait entrouvrir les yeux. Seul le vieux Benjamin était resté le même, à part le mufle un peu grisonnant, et depuis la mort de Malabar, un caractère plus que jamais revêche et taciturne. En plus de Douce, il y avait maintenant 3 chevaux à la ferme, des animaux bien pris et bien campés, aimant le travail et bons compagnons, mais tout à fait bornés. De l'alphabet, aucun d'eux ne put retenir plus que les 2 premières lettres. Ils admettaient tout ce qu'on leur disait du soulèvement et des principes de l'animalisme, mais il est douteux qu'ils aient entendu grand-chose. La ferme était plus prospère maintenant et mieux tenue. Elle s'était agrandie de 2 champs achetés à Mr. Pickington. Le moulin avait été construit à la fin des fins. On se servait d'une batteuse et d'un monte-charge pour le foin, et il y avait de nouveaux bâtiments. Wimper s'était procuré une charrette anglaise. Le moulin, toutefois, n'avait pas été employé à produire du courant électrique. Il servait à moudre le blé et rapportait de fameux bénéfices. Les animaux s'affairaient à ériger un autre moulin qui, une fois achevé, serait équipé de dynamos, disait-on. Mais de toutes les belles choses dont Boule de Neige avait fait rêver les animaux, la semaine de 3 jours, les installations électriques, l'eau courante, chaude et froide, on ne parlait plus. Napoléon avait dénoncé ses idées comme contraires à l'esprit de l'animalisme. Le bonheur le plus vrai, déclarait-il, réside dans le travail opiniâtre et l'existence frugale. On eût dit qu'en quelque façon, la ferme s'était enrichie sans rendre les animaux plus riches, hormis assurément les cochons et les chiens. On ne pouvait pas dire qu'ils ne travaillaient pas. Brille-Babille faisait des efforts considérables des cochons penchés sur des besognes mystérieuses. Il parlait dossiers, rapports, minutes, mémoranda. De grandes feuilles de papier étaient couvertes d'une écriture serrée et des quincies couvertes jetées au feu. Quant aux autres, autant qu'ils le pouvaient savoir, leur vie était comme elle avait toujours été. Ils avaient le plus souvent faim, dormaient sur la paille, buvaient l'eau de l'abreuvoir, labouraient les champs, ils souffraient du froid l'hiver et l'état des mouches. Parfois, les plus âgés fouillaient dans le flou des souvenirs, essayant de savoir si au premier jour, après le soulèvement, juste après l'expropriation de Jones, la vie avait été meilleure ou pire qu'à présent. Ils ne se rappelaient plus. Il n'y avait rien à quoi comparer leur vie actuelle, rien à quoi ils puissent s'en remettre que les colonnes de chiffres de Brille-Babille, lesquelles invariablement prouvaient que tout toujours allait de mieux en mieux. Seul le vieux Benjamin affirmait se rappeler sa longue vue dans le menu détail, et ainsi savoir que les choses n'avaient jamais été, ni ne pourraient jamais être bien meilleures ou bien pires. La faim, les épreuves, les déboires, telle était à l'en croire la loi inaltérable de la vie. Et pourtant, les animaux ne renoncèrent jamais à l'espérance. Mieux, ils ne cessèrent juste un instant de tenir à honneur et de regarder comme un privilège leur appartenance à la ferme des animaux. La seule du comté et même de toute l'Angleterre à être exploitée par les animaux. Pas un d'entre eux, même parmi les plus jeunes, ou bien ceux venus des fermes distantes de 5 à 6 lieues, qui toujours ne s'en émerveilla. Et quand ils entendaient la détonation du fusil et voyaient le drapeau vert sauter au mât, leur cœur battait plus fort, ils étaient saisis d'un orgueil qui ne mourait pas. Et sans cesse, la conversation revenait sur les jours héroïques d'autrefois, l'expropriation de Jones, la loi des 7 commandements, les grandes batailles et l'envahisseur taillé en pièces. À aucun des anciens rêves ils n'avaient renoncé. Ils croyaient encore à la bonne nouvelle annoncée par sage ancien, la République des animaux. Le jour viendrait. Leur vie pouvait être pénible, mais ils se savaient différents de tous les autres animaux. S'ils avaient faim, ce n'était pas de nourrir des humains tyranniques. S'ils travaillaient dur, au moins c'était à leur compte. Plus parmi eux de 2 pattes, et aucune créature ne donnait à aucun autre le nom de maître. Tous les animaux étaient égaux. Une fois, au début de l'été, Brille-Babille ordonna aux moutons de le suivre. Il les mena à l'autre extrémité de la ferme, jusqu'à un lopin de terre en friche, envahi par de jeunes bouleaux. Ils demeurèrent sur place la semaine entière, et Brille-Babille passait la plus grande partie du jour en leur compagnie. Il leur apprenait, disait-il, un chant nouveau dont le secret devait être gardé. Les moutons étaient tout juste de retour que dans la douceur du soir, alors que les animaux regagnaient les dépendances, le travail fini, un hennissement d'épouvante retentit dans la cour. C'était la voix de Douce. Elle hennit une seconde fois, et tous les animaux se ruèrent dans la cour au grand galop. Alors ils virent ce que Douce avait vu. Un cochon qui marchait sur ses pattes de derrière. C'était Brille-Babille. Un peu gauchement et peu accoutumé à supporter sa forte corpulence dans cette position, mais tout de même en parfait équilibre, Brille-Babille, déambulant à pas compter, traversait la cour. Un peu plus tard, une longue file de cochons sortit de la maison, et tous avançaient sur leurs pattes de derrière. Certains s'en tiraient mieux que d'autres, et un ou deux, un peu chancelants, se seraient bien trouvés d'une canne. Mais tous réussirent à faire le tour de la cour sans encombre. À la fin, ce furent les aboiements formidables des chiens et l'ardent cocorico du petit coq noir. Et on vit s'avancer Napoléon lui-même, tout redressé et majestueux, jetant de droite et de gauche des regards hautains, les chiens tombant autour de sa personne. Il était en veston noir, culotte pour la chasse et guêtre de cuir, accompagné de sa fille favorite dans une robe de soie moirée. Il se l'étincelait dans sa patte. Ce fut un silence de mort. Abasourdis et terrifiés, les animaux se serraient les uns contre les autres, suivant des yeux le long cortège des cochons défilant autour de la cour. C'était comme le monde à l'envers. Puis, le premier choc, une fois émoussé, au mépris de tout, de leur frayeur des chiens et des habitudes acquises au long des ans de ne jamais se plaindre ni critiquer, quoi qu'il advienne, ils s'apprêtaient à protester et à élever la parole. Quand les moutons, comme répondant à un signal, se prirent à bêler tout en cœur et de toute leur force. Quatre pattes bons, deux pattes mieux. 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 Ils vinrent ainsi cinq bonnes minutes. Et quand ils se turent, le cortège des cochons avait regagné la résidence. Benjamin sentit des naseaux contre son épaule, comme d'un animal en peine qui aurait voulu lui parler. C'était douce. Ses vieux yeux n'avaient l'air plus perdus que jamais, et sans un mot, elle tira Benjamin par la crinière, doucement, et l'entraîna jusqu'au fond de la grange, où les sept commandements étaient inscrits. Une minute ou deux, ils fixèrent le mur goudronné aux lettres blanches. Douce finit par dire, ma vue baisse, même au temps de ma jeunesse, je n'aurais pas pu lire comme c'était écrit, mais on dirait que le mur n'est plus tout à fait le même. Benjamin, les sept commandements sont-ils toujours comme autrefois ? Benjamin, pour une fois consentant à rompre avec ses principes, lui lut ce qui était écrit sur le mur. Il n'y avait plus maintenant qu'un seul commandement. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Après-midi de la semaine suivante, plusieurs charrettes anglaises se présentèrent à la ferme. Une délégation de fermiers du voisinage avait été invitée à visiter le domaine. On leur fit inspecter toute l'exploitation, qu'ils trouvèrent admirable, en particulier le moulin. Les animaux désherbaient un champ de navets, ils travaillaient avec empressement, osant à peine lever la tête et ne sachant des cochons ou des visiteurs lesquels redoutaient le plus. Ce soir-là, on entendit, venu de la maison, des couplets braillés, des explosions de rire. Au tumulte de ces voix entremêlées, les animaux furent saisis de curiosité. Que pouvait-il bien se passer là-bas maintenant que pour la première fois, hommes et animaux se rencontraient sur un pied d'égalité ? D'un commun accord, ils se glissèrent à pas feutrés vers le jardin. Ils firent face à la barrière, un peu effrayés de leur propre audace. Les douces montraient le chemin. Sur la pointe des pattes, ils avancent dans la maison, et ceux d'entre eux qui sont assez grands pour ça hasardent par la fenêtre de la salle à manger un coup d'œil à l'intérieur. Et là, autour de la longue table, se tiennent une douzaine de fermiers et une demi-douzaine de cochons, entre les plus éminents. Napoléon lui-même préside. Il occupe la place d'honneur au bout de la table. Les cochons ont l'air assis tout à leur aise. On allait jouer aux cartes, et c'est fini maintenant. À la vidance, un toast va être porté. Mr. Pilkinson de Foxwood s'était levé, choc en main. C'était pour lui une source de profonde satisfaction de savoir enfin révolu une longue période de méfiance et d'incompréhension. Des incidents regrettables s'étaient produits, des idées fausses avaient été monnaie courante. Trop de fermiers avaient tenu pour vrai, sans enquête préalable sérieuse, que dans une telle ferme prévaudrait un esprit de dissolution et d'indiscipline. Ils avaient appréhendé des conséquences fâcheuses sur leurs animaux ou peut-être même sur leurs humains salariés. Mais tout semblable était maintenant dissipé. Aujourd'hui, lui et ses amis avait visité la ferme des animaux. On avait inspecté chaque bouche. Et qu'avait-il trouvé? Non seulement des méthodes de pointe, mais encore un ordre et une discipline méritant d'être partout donnée en exemple. Il croyait pouvoir avancer à bon droit, que les animaux inférieurs de la ferme des animaux travaillaient plus dur et recevaient moins de nourriture que tout autre animal du comté. En vérité, lui et ses amis venaient de faire bien des constatations dont ils entendaient tirer profit sans délai dans leurs propres exploitations. Entre cochons et hommes, il n'y a pas de raison qu'il y ait un conflit d'intérêts quelconque. Messieurs, conclut Pickington, je porte un toast à la prospérité de la ferme des animaux. On l'acclama, on trépigna, ce fut le débordement d'enthousiasme. Napoléon, comblé, fit le tour de la table pour avant de vider sa chope, trinquer avec Mr. Pickington. Les vivas apaisés, il demeura debout, signifiant qu'il avait également quelques mots à dire. Comme tous ses discours, celui-ci fut bref et bien en situation. Lui aussi, dit-il, se réjouissait que la période d'incompréhension fût à son terme. Leur unique désir, maintenant comme dans le passé, était de vivre en paix avec leurs voisins et d'entretenir avec eux des relations d'affaires normales. Certaines modifications avaient été récemment introduites dans les anciennes habitudes de la ferme qui auraient pour effet de promouvoir une confiance encore accrue. Jusqu'ici, les animaux avaient eu pour coutume assez sotte de s'adresser l'un à l'autre en s'appelant camarades. Voilà qui allait être aboli. Napoléon révéla pour finir que la raison sociale de l'exploitation avait été récusée. La ferme serait connue à l'avenir sous le nom de « Ferme du Manoir », son véritable nom d'origine. « Messieurs, conclut-il, que chacun remplisse sa chope à ras-bord. Je bois à la prospérité de la ferme du Manoir !» Ce furent encore des acclamations chaleureuses et les chopes furent vidées avec entrain. Mais alors que les animaux observaient la scène du dehors, il leur parut que quelque chose de bizarre était en train de se passer. Pour quelle raison les traits des cochons n'étaient-ils plus tout à fait les mêmes? Les yeux fatigués de douce glissaient d'un visage à l'autre. Certains avaient un quintuple menton, d'autres avaient le menton quadruple, et d'autres triple. Et qu'est-ce que c'était qui avait l'air de se dissoudre, de s'effondrer, de se métamorphoser? Des yeux des animaux allaient du cochon à l'homme, et de l'homme au cochon, et de nouveau du cochon à l'homme. Mais déjà, il était impossible de les distinguer l'un de l'autre.
C'était La Ferme des Animaux, de George Orwell. Seconde partie, avec Chantal Bronner et la voix de Matita Samba. À l'improvisation musicale, Jean-Philippe Morel et Frédéric Bersard. Traduction, Jean Quéval. Extrait choisi par Jean Torrent. Conseillère littéraire, Caroline Wadana. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Manon Roussin et Adrien Roux. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Laurence Courtois. La ferme des animaux est publiée aux éditions Hubert.